France Inter.
Mardi 5 mars, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des millions d'Américains aux urnes.
Pour choisir leur candidat à la présidentielle, Super Tuesday, outre-Atlantique, sans grand suspense, on voit ça dès le début du journal. En France, la mobilisation contre un projet de barrage hydroélectrique sur le Rhône. Roman Polanski jugé pour diffamation, mais c'est bien d'agression sexuelle qu'on va parler au tribunal. Et puis en fin de journal, les plus grands compositeur français joué par la star internationale du piano Lang Lang.
Invité d'Inter ce matin, 7h50, bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous, y aura-t-il des athlètes russes au JO de Paris? La délégation israélienne défilera-t-elle sous son drapeau? Pourquoi le comité olympique se fait-il encore dérober ses plans de sécurité? Pourquoi tant de préservatifs distribués aux sportifs? Incontournable Tony Estanguet, président du comité d'organisation à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, en ce jour de Super Tuesday, donc, la présidentielle américaine, dans le grand entretien du 7-10 avec Célia Belin, Roger Cohen et Nicolas Conquer. 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain Mathieu Bellesi.
France Inter.
C'est un peu les qualifications pour le match retour, le Super Tuesday, rendez-vous incontournable de la politique américaine, des millions d'Américains appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir leur candidat pour la prochaine présidentielle, dont on connaît déjà en réalité la très probable affiche, la même qu'il y a 4 ans, Joe Biden contre Donald Trump. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Expliquez-nous comment se déroulent ces primaires géantes.
Alors, le Super Tuesday, c'est le rendez-vous où il y a le plus de délégués des partis en jeu. Et ce sont ces délégués qui désignent les candidats à la présidentielle lors des conventions de l'été. Cette année, ce sera mi-juillet pour les Républicains et fin août pour les Démocrates. Ces délégués, ils sont 2429 chez les Républicains. Il en faut donc 1215 à Trump pour être sûr d'emporter l'investiture. Et aujourd'hui, il y en a plus d'un tiers en jeu dans 15 États. Le plus grand nombre, c'est en Californie, 169 délégués. Et dans cet État de l'Ouest, eh bien, la règle, c'est que le vainqueur emporte tout. Donc si Trump fait au moins 50% des voix, il empoche tous les délégués. Ce n'est pas le cas dans tous les États. Les autres États où on vote aujourd'hui, ce sont des électorats très différents. Ça va du Texas républicain au Massachusetts démocrate, en passant par les États où c'est plus disputé, comme la Virginie ou la Caroline du Nord.
Et on le disait Sébastien, cette année, les enjeux de ce Super Tuesday sont limités.
D'habitude, il y a du suspense, ça permet de voir émerger un candidat dans la course à l'investiture, mais pas cette année. Côté démocrate, c'est classique, le sortant se représente, sauf incident, Biden sera désigné, c'est quasi plié. Côté républicain, c'est aussi quasi plié, et ça c'est beaucoup plus rare. Trump a décroché tous les États depuis le début des primaires, il n'a perdu que dans la capitale Washington, qui a été remportée dimanche par sa dernière adversaire Nikki Haley. L'ancienne ambassadrice aux Nations Unies a dit qu'elle resterait en course au moins jusqu'à aujourd'hui. Elle abandonnera probablement après. Et côté Trump, on a déjà prévu de décrocher 773 délégués ce soir et de ne plus pouvoir être rattrapé dans 2 semaines.
Sébastien Paour depuis Washington. Les États-Unis qui observent avec attention la session annuelle du Parlement chinois qui vient de débuter. La Chine annonce un budget militaire encore en hausse, plus 7% en 2024 comme en 2023. Pékin prévoit de dépenser plus de 230 milliards de dollars pour sa défense. C'est 3 fois moins que les États-Unis, mais 4 fois plus que la France. La France, qui par la voix d'Emmanuel Macron ce matin dans un entretien à un journal tchèque, précise que nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et que nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade. Première fois que le chef de l'État s'exprime depuis qu'il a dit que l'envoi de troupes en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Les autres alliés occidentaux s'étaient immédiatement démarqués. Le président français est à Prague aujourd'hui pour appuyer une initiative tchèque qui vise à acheter des munitions pour Kiev en dehors de l'Europe, en quelque sorte chercher les obus là où ils se trouvent, en Amérique latine, en Afrique du Sud ou en Inde. 800 000 munitions seraient disponibles, Maxence Lambrecq.
À l'Elysée, on se dit que c'est trop beau pour être vrai. 500 000 munitions calibre 155, 300 000 calibre 122 dormiraient aux quatre coins du monde et n'attendraient qu'un gros chèque des Occidentaux, près d'1,5 milliard, pour être livrés en quelques semaines en Ukraine. C'est ce qu'affirme le président tchèque, qui a déjà reçu le soutien d'une quinzaine de pays, Canada, Danemark, Belgique, Pays-Bas. La France, elle, se méfie. Ces stocks existent-ils vraiment? N'est-ce pas mieux de garder notre argent pour nos industriels qui devraient en fin d'année produire 4 à 5 000 obus par mois, deux fois plus qu'au début de la guerre? Mais ce matin, Emmanuel Macron ne peut pas arriver ici sans annoncer une participation à cette plateforme d'achat dont il ne voulait pas entendre parler l'an dernier, car les besoins sont urgents sur le terrain et l'UE, incapable seule de tenir sa promesse du printemps dernier, livrait 1 million de munitions en un an. Soutenir cette initiative, c'est aussi entretenir de bonnes relations avec un pays qui relance son parc nucléaire, le patron d'EDF et du Voyage, espérant décrocher en juin la commande de 4 réacteurs. Prague, Maxence Lambrec, France Inter.
À l'étranger encore, nouvel échange tendu entre accusations et démentis entre Israël et les Nations Unies, ces dernières critiquées pour avoir réagi trop lentement aux viols et violences sexuelles commises lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le patron de l'agence de l'ONU à Gaza dénonce une campagne délibérée et concertée pour saper les opérations d'aide humanitaire.
Il est 7h06, faut-il installer un nouveau barrage sur la dernière portion du Rhône encore sauvage?
Écologistes et riverains se mobilisent contre le projet de la Compagnie Nationale du Rhône qui prévoit d'installer en amont de la confluence entre l'Ain et le Rhône un barrage usine hydroélectrique avec une chute de près de 7 mètres, une retenue pour ralentir le début du fleuve et une digue de 4 km. La phase de concertation vient de s'achever, Delphine Simon.
Cette portion, 22 km sur le Rhône, c'est la dernière non aménagée. Y construire un barrage avec une usine hydroélectrique, ça va défigurer le paysage encore naturel, craignent des riverains. Une pétition circule sur Internet, plus de 7000 signatures, inquiète des conséquences sur la nappe phréatique et sur le cours du fleuve. Le maire de Saint-Romain de Jallieunas, dans l'Isère, Jérôme Grosy.
C'est la seule portion naturelle qui reste. À 3 km d'intervalle, on aura des EPR2 et maintenant une centrale hydroélectrique. Ça va être la vallée de l'énergie. Jusqu'où on est prêt pour faire de l'énergie décarbonée? Il n'y aura pas de la place pour tout le monde.
Des barrages sur le Rhône, il y en a déjà 19, dit-il. En construire un de plus, est-ce vraiment utile? D'autant que la puissance de celui-ci s'annonce faible au regard de ce que produiraient les futurs EPR. Reste qu'en pleine transition énergétique, chaque électron compte, rappelle Olivier Lebert, directeur du projet Rhônergia.
Cet aménagement produirait l'équivalent de la ville de Bourg-en-Bresse, environ 60 000 personnes hors chauffage. À l'heure où on cherche chaque mégawatt d'énergie décarbonée, cet aménagement aurait toute sa légitimité.
On est au tout début du chemin. L'État doit encore arbitrer sur l'opportunité de poursuivre les études d'ici le mois de juin. L'arbitrage final est attendu pour 2027.
Et les opposants au projet s'inquiètent aussi du chantier qui remettrait en circulation dans l'eau des polluants stockés dans les sédiments. À 90 ans, Roman Polanski, jugé par un tribunal français pour la première fois, audience cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le réalisateur est jugé pour diffamation pour avoir qualifié d'odieux mensonges les propos de l'actrice Charlotte Lewis qui l'accuse d'agression sexuelle. Une affaire qui prend un tout autre relief dans un monde du cinéma secoué par l'affaire Judith Godrèche, Charlotte Piré.
Pour examiner la plainte de Charlotte Lewis, le tribunal va devoir faire plusieurs bonds en arrière. Il y a 4 ans, tout d'abord, en décembre 2019, lorsque dans une interview à Paris Match, Roman Polanski évoque l'actrice comme étant à l'origine d'un odieux mensonge à son égard. Le cinéaste fait alors référence aux dénonciations 9 ans plus tôt, en mai 2010, en plein festival de Cannes, lorsque Charlotte Lewis accuse le réalisateur avec lequel elle a tourné le film Pirate de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 16 ans, lors d'un casting dans l'appartement même du réalisateur. Mais si Charlotte Lewis s'est exprimée sur le sujet, elle n'a jamais voulu porter plainte et le cinéaste franco-polonais n'est donc et ne sera jamais jugé pour cette agression sexuelle. Il en sera toutefois inévitablement beaucoup question à l'audience de ce jour, en l'absence de Roman Polanski qui préfère laisser à ses avocats le soin de plaider sa liberté d'expression et le droit à se défendre face à celle qu'il accuse publiquement. L'actrice de 56 ans qui vit au Royaume-Uni a quant à elle prévu de faire le déplacement.
L'accident est rarissime par son ampleur et par sa gravité. La mort hier d'un ouvrier sur le chantier du métro de Toulouse. 4 personnes se trouvaient sur un pont en construction quand il s'est soudain effondré sur une 20aine de mètres. Les ouvriers ont dû sauter de 10 mètres. L'un d'eux est mort, 2 autres sont en urgence absolue. Selon les premiers éléments, un vérin a cédé entre 2 piles du chantier du métro aérien.
Il est 7h09, c'est la boisson à la mode dans les magasins bio.
Le kéfir, une boisson pétillante sans alcool, obtenue obtenus par fermentation. Et pour en produire, les consommateurs se transmettent les grains, en réalité des amas de bactéries, un peu comme on ferait avec du levain. Chaque kéfir est donc différent. Des savants du Muséum d'Histoire Naturelle ont décidé d'en savoir plus. Ils viennent de lancer un projet de science participative. Kéfir Ensemble rassemble déjà 1300 personnes dans la France entière, Loïc Dutoit.
Voilà à quoi ressemblent les grains.
Jean-Baptiste Boulet est microbiologiste et responsable de l'équipe sur le projet Kéfir Ensemble.
C'est des espèces d'amas un petit peu mous, un petit peu transparents.
Si ces grains l'intriguent, c'est qu'ils sont un peu magiques. Ils se multiplient au cours de la fermentation dans l'eau et se transmettent entre particuliers, mais on ne sait pas quelle est leur origine et on ne sait pas non plus reproduire ces grains en laboratoire. On s'interroge enfin sur les vertus de cette boisson fermentée qui ont été peu étudiées scientifiquement pour l'instant. Les micro-organismes qui la composent évoluent-ils d'une génération à l'autre en fonction des conditions de culture ? Alexandra Joubert est ingénieure sur le projet Kéfir Ensemble.
La question qu'on se pose, c'est l'évolution en fait d'un grain de kéfir si on le transmet à différentes personnes qui vont le cultiver dans différents endroits, dans différentes cuisines, avec différents ustensiles, différents types d'eau. Est-ce que ce consortium, il évolue ou est-ce qu'il évolue pas ?
Faire appel à des participants extérieurs au laboratoire permet de multiplier le nombre d'environnements dans lesquels vont se développer les grains de kéfir. Les chercheurs vont donc donner des grains à travers toute la France, y compris jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mathilde Courel participe à l'expérience.
L'intérêt d'une étude comme celle-là, c'est qu'on va avoir un laboratoire grandeur nature sur tout l'ensemble de la France.
Début de l'expérience, dans quelques jours, elle doit durer au moins un an.
En football, le PSG a la qualification au bout des crampons ce soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens à 21h à Saint-Sébastien sur la pelouse de la modeste Real Sociedad, déjà battue à l'aller 2-0. Enfin, quand une star internationale du piano honore la France et ses compositeurs, le chinois Lang Lang sort un double album consacré à Camille Saint-Saëns pour le premier CD et à ses pièces préférées de Ravel et Fauré dans le second, ainsi que cinq compositrices Stéphane Capron.
De Saint-Saëns, tout le monde connaît le Carnaval des animaux, la musique de la montée des marches du Festival de Cannes. Le concerto numéro 2 est moins connu, mais c'est pour Lang Lang une œuvre magistrale.
Le concerto numéro 2 est l'un de mes concertos préférés depuis de nombreuses années. Quand j'ai commencé à jouer ce morceau, je me suis dit que c'était l'un des meilleurs concertos pour piano. C'est du même niveau que Liszt ou Rachmaninov. C'est vraiment une pièce incroyable avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. La virtuosité, les couleurs, les émotions, la chromatique et le son grandiose de l'orgue.
Alors que la place des compositrices dans les programmations en France est encore faible, Lang Lang en a choisi 5 dans son programme.
Ce n'est pas seulement que le monde a besoin de plus de compositrices, mais le monde a besoin de grandes compositions. Leur musique est si magique et ressemble tellement à un conte de fées, c'est magnifique. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ces très bons choix. Cela me donne énormément de plaisir à jouer.
Louise Farenc, Germaine Taillefer, Lily Boulanger, Mel Bonis et Charlotte Sohi vont continuer de sortir de l'anonymat grâce à Lang Lang.
Et précisément, Romance sans parole, voilà, de Charlotte Sohi sur l'album de Lang Lang. Notez sur vos tablettes qu'il sera en concert en France en mai et en juin à Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Paris.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, où la crise frappe de plein fouet les petites salles de concert.